Le message que vous allez suivre est un enseignement du révérend Raoul Wafo. Recevez cette parole avec foi, elle transformera votre mentalité et affectera votre destinée.
Nous allons prendre nos Bibles ensemble dans le livre de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset 16. Un texte de la Bible si combien familier. Nous allons le lire et nous allons exposer nos cœurs à la révélation de la parole de Dieu afin que Dieu nous donne non simplement d'avoir une connaissance intellectuelle de ce texte, mais une révélation par son esprit de la profondeur de sa signification à l'égard de toi et de moi. Des hommes qu'il a créés à son image selon sa ressemblance. De ce que ça a coûté à Dieu de te réconcilier à lui. Le prix qu'il a payé pour entretenir cette relation d'alliance et cette relation d'amour. La raison pour laquelle, quelles que soient les prophéties faites à ton égard et qui disent que tu ne réussiras pas, ces prophéties se sont trompées. Parce que le prix qui a été payé était trop grand pour que tu puisses échouer. Dieu t'a trop aimé. Son amour n'a point d'égal. Allons-y ensemble. Nous parlerons ce matin de l'intrigue de l'amour. Comment est-ce qu'un Dieu comme lui, qui n'a besoin de rien pour être ce qu'il est, a pu déployer son amour à l'égard d'une personne comme toi? Beaucoup de personnes pensent que tu es insignifiant, mais celui qui a de la valeur, la personne la plus importante te connaît et a insisté pour avoir une relation avec toi. Non, tu n'es pas insignifiant. Tu n'es pas insignifiant, tu as une valeur. Les gens ne l'ont peut-être pas encore vu comme Dieu le voit, mais tu as une grande valeur. Si tu n'avais pas de valeur, non, tu n'aurais pas été un être humain. Tu es un être humain parce que Dieu t'accorde une valeur importante. Et la raison pour laquelle tu vas écouter ce message, c'est que la valeur qui était dissimulée, les actions des ténèbres qui ont obscurci ton étoile, qui ont voilé la manifestation des talents de la grâce que Dieu a mis en toi, seront détruites car la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu sortiras d'ici dans la joie. Tu vas sauter comme une biche et une gazelle dans le verger de ton bonheur. Car l'Éternel est avec toi. Quand il dit quelque chose, il a la capacité pour veiller sur ce qu'il a dit et amener cela à existence. Alléluia. Nous allons lire ensemble Jean 3, 16, 1, 2 et 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons lire maintenant comme des personnes nées de nouveau. Alors à la place du monde, tu vas mettre ton nom et tu diras ainsi, car Dieu a tant aimé Raoul Wafo qu'il a donné son Fils unique, afin que comme j'ai cru, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. On y va, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé Raoul Wafo qu'il a donné son Fils unique, afin que comme j'ai cru en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour la haute responsabilité qui m'est accordée. À une saison comme celle-ci où la parole d'intégrité se fait rare, d'apporter le conseil de ta connaissance, de ta pensée à l'égard de l'Église. Merci pour ceux qui m'écoutent maintenant en Asie, qui m'écoutent en Amérique, qui m'écoutent en Europe, qui m'écoutent en Afrique. Père, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, je prie que par ta puissance extraordinaire, une présence, la présence de Dieu, soit à l'endroit où la personne se trouve en ce moment. Et que l'entendement, la compréhension de la parole soit claire et limpide. Et que sa vie soit influencée puissamment par l'Évangile. Et que Seigneur, oh Dieu, les desseins arrêtés en ce qui concerne sa personne se manifestent par une accélération puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel, car aujourd'hui encore, je mets une demande exceptionnelle devant de ton trône afin d'être revêtu d'une onction particulière pour enseigner, prophétiser. Et que ta parole soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Merci, parce que cette parole va influencer la vie de quiconque l'écoute. Tu vivras avec ce message. Il gardera ton cœur, motivera tes pensées. Et va totalement produire en toi une foi élevée, afin que tu puisses vivre une vie d'un standard élevé. Qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un s'accorde avec moi en disant Amen trois fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. La présence de l'Éternel est ici. Tu peux t'asseoir là où tu te trouves. Dieu est là. Amen. L'intrigue de l'amour. L'intrigue. Continuons notre enseignement sur la série que j'ai intitulée La voix ou une voix plus excellente. Ce matin, nous allons parler de l'intrigue de l'amour. Vous savez qu'en tant jeune homme, a fait de brillantes études et qu'il est beau d'apparence, vous voyez, il a la ferme conviction que plusieurs femmes diront « Je suis amoureux de toi ». Parce que vous allez vous rendre compte que plus souvent on tombe amoureux de celui qui a que celui qui n'a pas. Vous rendez compte, je suis pasteur, donc j'ai bien vu que bien des fois les femmes ont des révélations sur des hommes, c'est rarement les hommes qui n'ont rien. Donc, mais là, ici, la Bible dit Dieu a tant aimé. Là, c'est Dieu qui a tant aimé le monde. Le monde dont il est le créateur. Car la Bible dit que le monde et tout ce qu'il renferme appartient à Dieu. Dieu est le créateur du monde. Les cieux et la terre sont l'ouvrage de ses mains. Les poissons, les oiseaux, les pédris, les hommes sont l'ouvrage de ses mains. Et donc, il se trouva que l'être que Dieu a sélectionné et choisi, établi au-dessus de toute la création comme étant le maître de la création, a déçu Dieu, l'a trompé en bâtissant une alliance avec l'ennemi de Dieu, qui est le diable. Je vous rappelle que le Dieu dont je parle est le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui est omnipotent, capable de tout faire en tout temps et en tout lieu. Le Dieu auquel rien n'est impossible, qui est capable de rendre des jugements sans avoir à rendre compte à une juridiction supérieure. Car sa juridiction est établie au-dessus de toutes les autres. Quand il rend son verdict, personne ne peut contester, même s'il semble avoir tort. Il a toujours raison. Ce Dieu-là, quand l'homme l'a trompé avec grand H, au premier dit, Ève et Adam sont allés en alliance avec le diable, en désobéissant aux instructions de Dieu. Dieu, c'est vrai, à un moment, a été tellement choqué qu'il a voulu détruire le monde parce qu'il s'est dit, ce n'est pas possible. Je peux détruire ce monde et le recommencer. Je peux détruire le monde et rester seul. D'ailleurs, parce que Dieu veut dire, le seul être qui n'a besoin de personne pour être ce qu'il est et qui n'a besoin de rien pour subsister en tant que Dieu. C'est ce que ça veut dire Dieu. Donc Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Mais tu as besoin de Dieu pour être ce que tu es. Car sans Dieu, tu ne seras jamais ce que tu es. Jamais. Et donc, Dieu a regardé l'homme. Mais vous savez, il a aimé l'homme. Il a aimé l'homme avant même que l'homme ne péchât. Pourquoi? Parce qu'il a donné à l'homme son image. Il a donné à l'homme sa ressemblance. Et c'est pour ça que David, ayant la révélation de l'amour de Dieu, va dire en Psaume 8, verset 4 à 10, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de ta main, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » David comprend que le fait d'avoir été créé homme est la conséquence d'une grâce exceptionnelle de Dieu et qu'il n'a passé aucun concours, il n'a eu aucun mérite pour être là où il est. Bien-aimé, qui parmi vous a prié pour être homme ou femme comme tu es créé? Personne. Et je vais vous dire autre chose. Adam n'a pas intercédé pour être dans le jardin d'Éden. Non. Adam est né dans le jardin d'Éden simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Donc, c'était une pure grâce que d'être dans le jardin d'Éden. Ève s'est mariée le premier jour elle est arrivée au monde parce que Dieu l'a aimée. Elle n'a pas eu à passer des moments de jeûne pour dire « J'ai envoyé mon mari ». Dès qu'elle est née, le mari était en face. On a célébré le mariage. Et c'est lui qui a béni le mariage, c'est Dieu lui-même. Il n'y avait pas de mère, comme aujourd'hui, qui peuvent aller dans les corruptions au point où ils marient les hommes avec les chats. Non, je vous dis, c'était le mariage que Dieu a béni. Vous me comprenez? Dieu lui-même. Et donc il a béni l'homme et la femme lui-même, c'est lui qui a fait échange de bagues, c'est Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. Il dit à partir d'aujourd'hui vous êtes mariés. Prenez la terre, régnez sur cette terre. Moi, je vais m'occuper du ciel. Faites ce que vous en voulez. Hein? Voilà, la seule chose à faire, ne mangez pas de ce fruit. Ça vous causera des problèmes. Moi qui suis Dieu, je connais le bien et le mal, mais je veux vous en priver. Je veux que vous fonctionnez seulement avec le bien. Parce que le mal est dangereux. Ne touchez pas au mal. Fonctionnez, voilà l'arbre de vie, voilà, et tout. Faites-en ce que vous voulez, donnez des noms, régnez sur cette terre. La femme est allée manger le fruit et la séparation a été provoquée. Et donc la Bible dit, vous voyez que le péché que l'homme a commis a créé un impact dans son sang. Parce que la Bible dit dans Lévitique 10, verset 10 à 11, que l'âme de la chair est dans son sang. Donc quand on pêche, c'est le sang qui est souillé. Et donc pour régler la question de sang, on ne peut pas le régler avec une offrande. On doit régler la question de sang avec le sang. Sauf que quand Adam et Ève ont péché, il n'y avait plus d'hommes sur la terre pour qui pouvaient payer le prix pour leur expiation parce qu'ils ont péché avant d'avoir accouché. S'ils avaient accouché, on aurait peut-être pris leur fils en disant, bon, comme ils ont péché et que le fils n'a pas péché, le fils peut mourir à leur place et le sang du fils va servir d'expiation. Non, mais quand ils ont péché, ils ont corrompu toute la terre. La seule solution pour le rachat et la rédemption de l'homme était que Dieu envoie sur la terre un homme qui avait un sang sans péché, capable d'expier les péchés de l'homme. Et là, Dieu, dans son amour, va trouver un stratagème qui va déployer le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans tout ce qu'ils sont pour venir sur la terre, racheter l'homme, toi et moi, de la captivité du péché pour nous ramener dans le standard de la gloire qu'il avait conçu au départ. Le Père va dire, non, j'aime trop cet homme. Et quand Dieu dit, il aime l'homme, il regarde, il voit Adam, il voit Abraham, il voit Isaac, il voit Jacob. Mais surtout quand il m'a regardé, il dit, non, Wafo, je ne peux pas laisser Wafo dans ces conditions. Il a regardé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je lis la Bible, j'ai la conscience que Dieu a pensé à moi. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais je sais que Dieu a pensé. Je le sais, il pensait à moi. Et il dit, non, je ne laisserai pas cet homme dans cette condition. Et là, il va se déployer. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit vont regarder pour voir les ennemis que l'homme avait. Vous voyez, ils ont détecté trois. Le monde, la chair, le diable. Et le Père va dire, ok, moi je vais y aller pour museler le monde. Et quand je parle de monde, bien aimé, je ne parle pas simplement des hommes. Je parle de l'univers. Monde vient du mot cosmos, qui veut dire l'univers agencé. Donc il a tant aimé le monde, il a aimé la perdrix, il a aimé le chat, il a aimé l'or, il a aimé le diamant, il a aimé le bronze, il a aimé tout ce que le monde contient. Pourquoi? Parce qu'il a tellement aimé le monde qu'il n'a pas voulu que le monde ait un autre maître. T'as pas compris de quoi je parle. Il a tellement aimé le monde qu'il s'est dit que le diable ne doit pas être le maître de ce monde. Il a tellement aimé l'or qu'il a dit non, l'or ne sera pas possédé par les impies. Il a tellement aimé l'argent qu'il a dit non, l'argent doit appartenir à ceux qui le craignent. Il a tellement aimé les maisons qu'il s'est dit non, les maisons doivent appartenir au roi. Les palais ne vont pas être habités par les esclaves. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et le fils est descendu dans toute l'obéissance. Né d'une femme, appelé Jésus, 100% homme. Et quand le moment est arrivé d'aller à la croix, avant d'aller à la croix, Jésus arrive aux noces de Cana. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que Marie reconnaît qu'elle a accouché en homme, mais qui n'est pas en homme. C'est-à-dire qu'elle a accouché en homme, mais quelque part, cet homme-là, il y a quelque chose d'autre qui est rattaché à sa personne. Marie se souvient, certainement, qu'au jour du baptême, Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Bien-aimé, celui qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, elle se rend compte qu'en fait, elle a engendré Jésus et que Jésus et Dieu a engendré le Christ. Elle a donné naissance à Jésus comme il y avait beaucoup de Jésus en Israël. Mais sauf que ce Jésus-là était le choisi, était le Messie, était l'envoyé, était celui que le ciel avait choisi pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et elle a dit, si on était à la maison, j'aurais peut-être dit à Jésus ce qu'il fallait faire. Mais comme Jésus commence son ministère, et que je suis une femme, je ne peux pas engendrer un Dieu, je dois me soumettre moi-même à l'autorité de cet homme qui n'est pas un homme, qui est 100% homme et 100% Dieu. Alors, faites ce qu'il vous dira. Et donc Jésus, la Bible dit dans 1 Jean 3:8, le Fils de l'homme a paru afin d'aider tous les œuvres du diable. Donc il est venu anéantir, écraser la tête de Satan, libérer Satan de toute forme d'oppression sur l'homme et nous restaurer l'autorité. Et le Saint-Esprit, gentleman qui l'a attendu sur son trône, en disant, quand tu auras terminé la tâche, je descendrai. Et quand je vais descendre, je ne vais plus jamais repartir jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Je ne vais plus jamais laisser l'homme et la femme seuls sur la terre. Quand le diable viendra, je vais les avertir avant. Par des songes, par des visions, par ma voix. Ils seront en moi, j'habiterai en eux. On fermera une alliance parfaite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Bien-aimés, quand vous sortez dans la rue, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Dieu est dans ta vie. Quand tu prends une voiture, quand tu prends l'avion, Dieu est avec toi. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Maintenant, bien-aimés, si nous marchons, nous comprenons la dimension de l'amour de Dieu. Il est anormal que nous soyons privés des bienfaits de Dieu. Est-ce que vous savez que votre révélation de l'amour va déterminer votre dimension de foi? Ceux qui connaissent l'amour de Dieu marchent par la foi. Ils ont confiance en Dieu. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas confiance? Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. Vous avez déjà entendu des enfants de Dieu qui vous disent, non, Dieu ne veut pas qu'on soit guéri. Je vais vous dire une chose. Si ton Dieu ne veut pas que tu sois guéri, c'est le diable. Je te garantis qu'il n'y a pas un Dieu comme celui que je sers, qui peut avoir payé un prix si immense et qui veut te laisser encore souffrir dans la maladie ou la misère. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas le Dieu que j'adore. Non, bien-aimé, il faut payer le prix sur la terre, on ne sait jamais. Hein, je porte ma croix, je le suis. Ce n'est pas de cette croix qu'il s'agit. On parlera de ça plus tard. Non, 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 non. Dieu ne t'a pas créé pour t'humilier. Non, non, non. S'il voulait tellement que tu fasses l'expérience du désert, il n'aurait jamais mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il aurait mis dans le désert du Sahara avant de les amener à Éden. Il a mis dans Éden parce que l'Éden est le meilleur endroit pour l'épanouissement de l'homme. Tu ferais mieux de dire Alléluia. Tu ferais mieux de dire Amen. Vous savez, certains d'entre vous, vous ne dansez pas dans sa présence parce que vous ne connaissez pas qui il est. Vous ne pouvez pas l'adorer parce que vous n'avez pas la révélation de sa bonté. Ah non, nous, on sait d'où on vient. Certains d'entre nous, nous savons où Jésus nous a pris, où il nous a sortis. Bien-aimés, rien ne peut arrêter ma louange et ma célébration à l'égard de ce Dieu-là. Rien, rien, je vous dis rien. Parce que je sais où il m'a pris. Je danserai pour lui, je chanterai pour lui, je crierai pour lui, je donnerai pour lui. Parce que lui seul mérite l'adoration. On sait d'où on vient. On sait d'où on vient. Certains d'entre nous ne dormaient pas la nuit. Il y avait un fil, un cordon invisible. On nous avait attachés en boîte de nuit. Il fallait que toutes les nuits, on vienne respirer l'odeur de la boîte avant d'aller dormir. Je vous garantis, la cigarette et le cœur qui battait, les oppressions la nuit et les rêves bizarres et les ceci, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. La richesse de la délivrance. Quand on dit Dieu a tant aimé, quand vous entrez dans la dimension de la révélation de l'amour de Dieu, oh bien-aimé, vous commencez à vivre l'éternité dans le temps. Parce que c'est ça la vie avec Dieu. C'est pas simplement, oh, riba kata, oh, je vais à l'église. Hey, mais non, vous savez, c'est pas, Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on prie. Je vais vous choquer. Dieu ne t'a pas sauvé pour te faire prier, pour te faire jeûner, pour te faire lire la Bible. Il t'a sauvé pour t'amener dans sa bonté. Donc la prière est la conséquence de sa bonté. Je prie parce qu'il est bon. Je l'adore parce qu'il est bon. Je vais à l'église parce qu'il est bon. Je le loue parce qu'il est bon. Je donne parce qu'il est bon. C'est tout. Est-ce que vous me comprenez? Ne prenez pas Dieu comme celui qui se balade avec une chicotte pour fouetter tout, à la fin du mois toutes les personnes qui n'ont pas donné les dîmes. Allez à Sokossé, vous n'allez pas voir Dieu en train de faire les achats. Ah, tu ne fais pas attention, Dieu va te frapper. Vous avez déjà vu Dieu en train d'acheter une voiture? La vitesse de la lumière est à une fraction de seconde. La lumière se retrouve aux États-Unis. Dieu ne se déplace pas avec les jets privés ou avec le Concorde. Quand Jésus a voulu montrer la dimension de qui il était, quand les portes étaient fermées, paf, il est passé par les murs. Pour dire que moi, je suis au-dessus de ce qui vous mélange dans le monde physique. Au-dessus. C'est le Dieu qu'on sert. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand je m'imagine que ce Dieu-là, vous savez, vous ne pouvez pas savoir, quand je suis dans ma chambre, bien-aimé, et que je me mets à genoux, et que je sens sa présence descendre. Vous ne pouvez pas imaginer dans mon cœur comment je suis si petit devant lui. J'ai dit, Dieu, il y a près de 8 milliards de personnes sur la terre. Tu viens dans ma chambre parler avec moi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Ce Dieu-là, mais certains d'entre nous, on ne le connaît pas. On le prend tellement à la légère. Ce Dieu si puissant. Il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a sauvé. Non, non, non. Il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ce que tu fais. Voyez donc, cet amour, c'est simplement inimaginable ce que Dieu est capable de faire. Nous devons donc comprendre qu'il a déployé son amour. Et une autre chose, bien-aimé, parce que je veux vraiment que ce matin, ce message change radicalement ta perception de ta relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, alors je parle de l'intrigue de l'amour. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, parce que la Bible dit que Moïse est venu avec la loi et Jésus est venu avec la grâce. Donc nous avons une dispensation précédente qui a été celle de la loi et nous vivons dans la dispensation de la grâce. La loi nous disait que celui qui mettait la loi en pratique vivait par elle. D'accord? Donc on vivait selon l'application de la loi. Mais sauf que la grâce est vraiment opposée à la loi dans le sens où la grâce dit que je n'ai pas besoin de mettre en application la loi, mais de croire que quelqu'un l'a mise en application pour moi, pour avoir accès aux promesses, n'est-ce pas, qu'elle contenait. Donc, comme par un seul, le péché est entré dans le monde, par Adam, nous avons subi le péché, le second Adam est venu, accomplit la loi. Donc, quand je crois en ce que Jésus a fait, je vis comme quelqu'un qui a accompli toute la loi sans l'avoir accomplie. Donc ma foi en sa personne me fait vivre les promesses de celui qui a accompli la loi sans l'accomplir. C'est pour ça qu'on parle de l'accès aux promesses par la foi. La foi en quoi? La foi en celui qui a accompli la loi. Il n'est pas venu l'abolir, mais il est venu l'accomplir. Deux personnes, venez s'il vous plaît. D'accord? Je veux qu'on le comprenne. Nous parlons de l'intrigue de l'amour. Voyez, nous avons là la loi et nous avons là la grâce. D'accord? Tournez-vous comme ça. D'accord. Vous voyez, quand Adam a péché, nous étions tous, à cause de son péché, nous avons subi, n'est pas toutes les conséquences. Et donc la loi a été donnée par Moïse, parce qu'une promesse avait été faite à Abraham. On verra ça plus tard. Donc cette promesse, quand je dis à Abraham, dans Genèse 12, verset 1, 2, 3, 4, 5, quitte ton pays, t'appartient à la maison de ton père, vas-y dans le pays, je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies après toi, n'est-ce pas? Dieu fait une promesse à Abraham. Il a promis quoi à Abraham? Il dit à quoi? Qu'est-ce qu'il a promis? Il dit, je bénirai. Et la bénédiction, c'est quoi? Parce que quand vous dites à quelqu'un, oh, que Dieu te bénisse, ça, c'est un langage religieux. Dieu, mon frère, que Dieu te bénisse. Non, Dieu te bénisse n'est pas une bénédiction. Que Dieu te bénisse et te rende puissant, c'est ça la bénédiction. Que Dieu te bénisse et t'élève, c'est ça la bénédiction. Que Dieu te bénisse et te rende fécond. Donc la bénédiction doit être accompagnée d'une précision dans l'action. Donc tu ne dis pas, Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu te bénisse, amen. Non, non, la personne dit, ok, tu dis, il me bénit en faisant quoi? Vous comprenez? Donc Dieu, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Chaque fois que Dieu bénit, il précise. Il dit, je te bénis, sois fécond. Ce n'est pas je te bénis, amen, non. Ça ne veut rien dire. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Dis, ce gars, il m'émerveille tous les jours. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, donc, ce qui est important, c'est quand il a péché. Donc, à cause de la promesse qui a été faite, on était tous rattachés, n'est-ce pas, à Adam, par Moïse qui vient après la loi, après la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et ensuite, cette loi qui est donnée nous sert de pédagogue pour nous rattacher à la promesse qui a été faite à Abraham. Donc, tu feras ci, tu feras pas ça, parce que Dieu veut nous maintenir sur la promesse abrahamique. D'accord? Maintenant, Jésus arrive et il meurt à la croix. Il accomplit la loi. Donc, à partir de ce moment, nous n'avons plus un seul arbre dans le jardin. Nous en avons un second. Lui, c'est la grâce et l'autre, c'est la loi. Donc, Jésus maintenant arrive et il dit, ok, les hommes ont le choix. Soit ils restent rattachés à l'ancien Adam et continuent de vivre sous l'oppression du péché et de la loi. Ou alors, ils se rattachent à l'action que moi j'ai accomplie et jouissent maintenant de La grâce par la foi. Ça veut dire quoi? Comme je n'ai pas passé de concours pour entrer dans le péché. Comme je n'ai pas passé de concours pour être béni, pour être maudit. Comme je n'ai pas passé de concours pour que les sorciers m'oppressent. Je n'ai pas besoin non plus de passer de concours maintenant pour pouvoir naviguer dans la dimension de la visitation par... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où je crois en Jésus, je me rattache à l'action que Dieu a accomplie pour ma vie. Son amour pour moi, en envoyant son Fils, c'est de me sortir de l'oppression de la loi pour me transporter dans la dimension de la grâce. La loi disait, c'est parce que j'ai fait telle chose que je suis béni. La grâce dit, c'est parce que Dieu t'a aimé que tu es béni. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? Donc, maintenant, j'ai le choix. Soit, viens maintenant, la loi. Soit je suis tiraillé, tire-moi, de ce côté, en essayant de dire, écoute, obéis à mes instructions, fais exactement ce que je demande. Ou alors, je dis à la loi, je comprends ton importance. Sauf que, ton importance révèle mes limitations. Tu me montres, par ton exigence, que je suis incapable de jouir des promesses de Dieu par toi. Et comme je suis incapable, je veux donc me soumettre plutôt à la grâce qui, elle, ne me demande pas autant de choses, mais me demande de croire en celui qui me tire, dis-moi, en celui qui me tire de ce côté. Donc, à cause de ma foi en lui, il me tire dans les merveilles de Dieu, par la foi. Donc, aussi longtemps que je suis accroché à lui, même si l'ancienne nature peut avoir un problème, mais il exerce une pression sur ma vie et m'amène dans la dimension de l'abondance du ciel. Vous comprenez? Donc, la confiance que je place en lui, donc c'est ça la foi. Et donc, vous comprenez donc pourquoi, vous pouvez vous asseoir, certaines personnes n'ont pas compris la Bible. Quand Moïse parle à Dieu et il dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Moïse dit? Oh là, aidez-moi à enseigner. Moïse dit quoi? Fais-moi voir. Exode 33, verset 18. Fais-moi voir ta gloire. Alors, Romains 3, verset 23 dit quoi? Tous ont péché et ont été privés de la gloire. Suivez-moi bien, suivez-moi très bien. Même celui qui est venu avec la loi a compris lui-même que la loi était par quand il ne pouvait pas par la loi voir la gloire de Dieu. Donc il a surpassé lui-même la loi et est allé dans la relation d'alliance avec Dieu pour dire, si tu es trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Donc quand je trouve grâce, je dois voir la gloire. Est-ce que vous me trouvez? Est-ce que vous me comprenez? La grâce ne me ramène pas à la loi, mais me ramène à la gloire. On ne peut pas être gracié pour la loi, on est gracié pour la gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Oh, j'aime la parole de Dieu. Oula, l'Éternel lui dit, verset 19 d'Exode 33, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma... Oh, que Dieu ouvre l'entendement de tes yeux. Que Dieu te donne de comprendre la merveille de sa parole. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Certains d'entre vous, vous avez vu une partie de la bonté. Dieu t'a fait passer devant toi la prospérité, ce n'est pas tout. L'élévation va venir, la paix va venir, la joie va venir. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il dit aussi, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Arrêtons-nous là un moment. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je dis que je veux voir la gloire de Dieu, le jour où j'ai affaire à la bonté de Dieu, je suis en train de voir sa gloire. Les gens pensent que la gloire c'est un nuage qui va venir, qui descend. Mais écoutez-moi, si Dieu fait descendre une fumée sur la terre, à quoi ça me sert? Je suis dans la fumée et puis après, la fumée va m'amener où? Qu'est-ce qu'on a à faire avec la fumée? Ouais, les gens disent non, quand la gloire descend, c'est une fumée qui est là. Oui, mais après quoi? Quelle influence cette fumée a sur ma vie de tous les jours? Est-ce que vous me comprenez? Ne soyez pas des personnes qui rêvassent. Soyez des personnes qui sont concrètes dans votre marche avec Dieu. Il dit, je fais passer devant toi toute ma bonté. Et n'oubliez pas que plus tôt, Moïse avait demandé à Dieu quel était son nom. Vous y êtes? Dans Exode 3, Exode 4, Dieu parle, Moïse pose la question à Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que je dirais à ceux qui, avec qui tu m'envoies? N'est-ce pas? Exode 3, verset 14. Et puis il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Donc là, Dieu semble n'avoir pas donné son nom. Et il dit, je m'appelle je suis. D'accord? Donc, mais est-ce que Moïse avait, qu'est-ce que Moïse avait demandé? Si vous êtes encore là, il a demandé? Très bien. Et Dieu a dit, je m'appelle. En quelque sorte, on ne me connaît pas par anticipation. Si tu veux me connaître, tous les jours de ta vie, chaque jour, face à chaque événement, je vais te montrer qui moi, je, voilà, je suis. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est tous les jours, c'est de façon progressive. Il dit, je proclamerai, et regardez, devant toi le nom de l'Éternel. Ça veut dire, je proclamerai devant toi en quelque sorte, face à toutes les circonstances, tu connaîtras qui je suis. Et quand Moïse arrive maintenant et se rend compte que le peuple est piqué par le serpent des reins, et qu'il dresse par le serpent brûlant, et qu'il dresse son serpent des reins, Dieu lui révèle qu'il s'appelle en fait Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit. Donc il proclame son nom face à la circonstance que Moïse traverse et qui semble être une adversité. Donc Dieu se révèle de façon progressive. Le jour où il manque de provision, le ciel s'ouvre, le rocher s'ouvre. Et Dieu dit, je m'appelle aussi Jéhovah Jireh. Il révèle encore une partie de son nom. Est-ce que vous comprenez la densité de la parole? Et le jour où les ennemis l'attaquent, oh, Dieu se révèle, écrase les ennemis. Il dit, je m'appelle El Shaddai. Il proclame son nom devant sa face. Quand il est en trouble et qu'il veut la paix, Dieu se révèle, il dit, je m'appelle Jéhovah Shama. Et quand l'ennemi se lève avec son armée, il dit, reste calme. Je m'appelle Jéhovah Sabaoth. Je suis l'Éternel des armées. Donc il dit, tous les jours, je proclamerai le nom de l'Éternel devant ta face. Et tu verras que tu es en Dieu. Alors ça, prends ça comme une prophétie. Prends ça comme une prophétie. Que ce soit en 2013, 2014, 2015, jusqu'à l'an 3000, si tu vis jusqu'à cette année-là, je déclare sur ta vie que tu verras la bonté de l'Éternel au quotidien. J'ai dit au quotidien. Certains d'entre vous, vos amens sont faibles. Peut-être parce que ton mari est un boxeur. C'est pas grave. Dis simplement amen. Amen. Même Mike Tyson a été battu un jour. Donc ne t'inquiète pas. Ton mari ne peut pas rester comme ça éternellement. Dis amen. Ah, je vois des hommes qui ont des difficultés à dire amen. Parce que leur femme, c'est oh là là. Donc on ne peut pas parler. Mais écoutez, quel que soit ce qui se passe, laissez-moi vous dire que Dieu est capable de régler le problème. Il est capable de régler le problème. S'il a pu déjouer les actions de Satan, ce n'est pas les petits problèmes que tu as dans ton ménage qui doivent t'amener à perdre ta paix. Je déclare sur ta vie que tu verras la bonté de Dieu. L'Éternel va te combler de grâce incroyable. Tu verras la puissance de Dieu se manifester à ton égard tous les jours. Sauf que vous devez comprendre que l'accès à l'amour de Dieu a été conditionné par le sacrifice d'un homme. Donc, si je dis que j'aime Dieu, mon sacrifice démontre mon amour. Vous voyez? Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, Genèse 12. La maison de ton père, Abraham sort. Et vous allez vous rendre compte que quand Abraham sort, au verset 5, la Bible dit, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Donc Abraham est sorti seul ou pas? Répondez-moi s'il vous plaît. Abraham est sorti seul ou pas? Il n'est pas sorti seul, mais il a aussi pris tout ce qu'il avait. Même son blé dans les banques qu'il a ramassé, tout dit, allez, on sort. On s'en va ailleurs. Il y a un meilleur territoire pour nous. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc quand il sort parce que Dieu l'a appelé, parce que Dieu lui a parlé. Mais je vais vous poser une question. Qui ne serait pas parti à la place d'Abraham? Quand Dieu dit, je vais te bénir, je rendrai ton nom grand, qui n'aurait pas été tenté d'aller avec Dieu? Est-ce que vous pensez qu'à cette étape précise, Abraham part parce qu'il aime Dieu ou il part parce que Dieu l'aime? Oui, il part parce que Dieu l'aime. Il sort de là parce qu'il dit, ah, il y a quelqu'un qui me promet mieux. Donc les dieux de ses pères n'ayant pas de solution à certains problèmes, il dit, ah, je crois que ce Dieu-là qui me parle, il va régler mes problèmes. Donc au départ, il s'en va pour que Dieu règle ses problèmes. Et c'est souvent ce qui arrive. Les gens viennent à l'église pour que Dieu règle leurs problèmes. Oh, Dieu va m'élever. Non, je vais trouver une bonne femme. Dans tous les cas, je vais faire ci. Oh non, j'aurai ça. Ça, c'est la première dimension. C'est la dimension où on est encore un bébé. Où on connaît à peine l'amour de Dieu. Mais vous savez, Dieu est tellement intelligent qu'il nous attire par ces petits signes, ces petites bénédictions entre griffes qui ne représentent rien par rapport à la révélation de son amour. Maintenant, Abraham va avec lui. Et plus tard, Abraham se rend compte, 17 ans plus tard, qu'il n'a pas eu d'enfant. Il va donc aller maintenant avec sa servante. Il va avoir un fils qu'on va appeler Ismaël. Bon, je vous pose une question. Dieu et Abraham aimaient-ils Dieu ou pas? Est-ce que Abraham aimait Dieu? La Bible dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Est-ce que là, Abraham aimait Dieu? Très bien. Est-ce que vous me comprenez? Abraham est allé vers sa servante. En quelque sorte, Dieu, tu m'as fait une promesse, je suis parti pour elle, je ne l'ai pas vue, laisse-moi me débrouiller maintenant. Il est allé, il a eu son fils. Et ça arrangeait tout le monde d'ailleurs. Et c'est sûr que, peut-être embarrassé par le fait qu'Abraham mettait une pression pour avoir un fils, sa femme dit, ok, vas-y, dans tous les cas, je vois comment tu regardes la servante à la maison. Je sais que ça t'intéresse, il n'y a pas de problème. Bah, Abraham lui dit, mais tu veux qu'on fasse quoi? Dieu m'a dit que je vais avoir un enfant, toi, ok, c'est pas grave, prends-la. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la Bible ne nous montre pas tout, hein. Vous comprenez, la Bible a écrit une phrase, mais c'est toute une histoire derrière. Vous comprenez? Il y a toute l'histoire derrière. Donc, la femme accouche à la maison. Et quand elle accouche à la maison, quand elle dit, Agar, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi tu m'appelles même? Elle dit, ah, c'est comme ça maintenant? Ah, comme ça, toi, tu n'as pas vu que c'est moi qui ai eu l'enfant? Donc, la femme, maintenant, se rend compte qu'elle perd sa place. Parce que l'héritier est né de la servante. Donc, la servante s'assied maintenant sur le siège de la femme. La femme dit, non, là, je ne laisse pas tomber. Il faut que tu sors de ma maison. Abraham dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, elle doit partir. Hein? Tu as vu comment elle me parle? Abraham dit, attends, toi-même, regarde l'enfant. Elle dit, je ne veux rien entendre. Dieu intervient dans le parable, il dit, Abraham, écoute ta femme, laisse partir la femme. Ouais, il laisse partir la femme. Mais quand la femme sort avec l'enfant, Dieu intervient aussi de l'autre côté. Ça veut dire que Dieu est trop sage. Il vient maintenant, il intervient dans le désert, il bénit l'enfant. Pour dire, ne t'inquiète pas, même si on t'a chassé. Comme quand même la semence de cet enfant, c'est la semence de quelqu'un qui m'a rencontré. Il ne peut pas être maudit, je vais quand même le bénir. Allez voir Ben Laden. C'est la conséquence de la bénédiction qui a été lâchée dans le désert. Est-ce que vous me comprenez? Dieu dit, je vais quand même le bénir. Et c'est après maintenant que Dieu va traiter avec Abraham. Il lui dit, hé, attention, je suis Dieu. Je n'ai pas exclu à Sarah de cette affaire. Donc ne l'exclue pas. Quand je dis que j'aime les gens, je ne fais pas exception de personne. Moi j'aime. Dans mon amour, il y a une intrigue terrible. Je peux parler en homme. Alors que quand je lui parle, je pense à toute une nation et à toute une destinée. Abraham, pourquoi tu penses que ma parole s'est limitée seulement à toi? Ne comprends-tu pas l'intrigue qu'il y a derrière ma phrase? Je te bénirai. C'est plus grand que ce qui est écrit, Abraham. Ça n'est pas simplement toi. Quand je te parle, je vois Isaac, je vois Jacob, je vois Jean-Baptiste, je vois Salomon, je vois Révérend Wafo, je vois tous ces gens. Quand je te parlais, Abraham, il n'y a pas que toi qui étais concerné. Abraham, même Sarah, ta femme, est concernée. D'ailleurs, change son nom. Ne l'appelle plus Sarai. Ma princesse, tu peux accoucher une femme toi? Ma princesse. Parce que Sarah veut dire, ma princesse, appelle-la dorénavant Sarah. Enlève le ma devant et laisse princesse. Comme ça, moi-même le jour où je veux traiter avec elle, qu'il n'y ait pas embouteillage. Que ce soit enlevé comme ça, elle peut devenir aussi ma princesse. Hey, hallelujah. Amen. Et que je puisse traiter avec elle. Oh, je déclare sur ta vie que celui qui avait placé un article possessif sur ton nom, disant que tu es sa propriété, cet article est ôté au nom puissant de Jésus. Tu es pleinement la propriété de l'Éternel. Et Dieu va traiter avec toi au nom de Jésus. Ton patron n'est pas Dieu. Ton mari n'est pas Dieu. Ta femme n'est pas Dieu. Tes parents ne sont pas Dieu. Ton travail n'est pas Dieu. Je déclare sur ta vie que ton histoire continuera. Car il y a une intrigue dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, un grand réalisateur, c'est celui qui sait faire ressortir l'intrigue du film. Quand on poursuit, on sait c'est l'acteur, on le poursuit. Ton cœur là souvent, hein, ça bat. Comme tu es ma femme peut se... Hey, Eva. Oui, j'ai dit chérie, calme-toi, c'est le film. Mais c'est tellement vrai que souvent vous voyez, quelqu'un peut pleurer. Ah, on lui a dit, mais c'est le film. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est une intrigue, mais qui paraît tellement vrai. Mais nous savons déjà, quand nous étions plus jeunes, on sait que l'acteur principal ne meurt pas. C'est le chef bandit qui, même s'il fait n'importe quoi, c'est lui qui finit par mourir. Donc dans tous les cas, quel que soit ce qui arrive, nous savons que celui qui meurt, c'est Satan. Et c'est Satan qui meurt, ce n'est pas, c'est pas toi, c'est Satan qui meurt. Vous me comprenez? Et l'acteur principal, c'est toi. Quand on arrête l'acteur principal, on met en prison, il y a toujours un truc qu'on fait, à la dernière minute, il sort. Est-ce que vous vous rappelez? Je déclare sur ta vie que tu sortiras de cette prison. La main de l'Éternel te délivrera au nom puissant de Jésus. Dieu t'a trop aimé. Il t'a trop aimé pour qu'une quelconque prison puisse te retenir captif sur la terre. Je déclare que les portes de cette prison s'ouvrent. La main de Dieu s'étend sur ta vie. La liberté est proclamée au nom de... Car la Bible dit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Donc tu es libéré au nom puissant de Jésus. Voyez? Donc, cette intrigue. Et donc, Abraham, plus tard, va enfanter un fils qu'on va appeler Ismaël. Et plus tard, donc, j'aime ça. On va appeler Isaac. Merci. Plus tard, donc, Genèse 22, verset 1, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve en ces mots. Il appela Abraham, il dit, Abraham dit, me voici. Verset 2, il dit, donne à ton fils ton unique, celui que tu... Celui que tu... Très bien. Dieu n'a pas... Dieu dit, donne-moi celui que tu aimes. Donc Abraham était allé à la quête de la promesse que Dieu lui avait faite et avait attaché son amour sur cette promesse. Et Dieu lui dit, non, dans notre relation, ce n'est pas l'enfant que tu dois aimer, c'est moi que tu dois aimer. Ce n'est pas le ministère que je t'ai donné que tu dois aimer, c'est Dieu du ministère que tu dois aimer. Ce n'est pas ton travail que tu dois aimer, c'est moi que tu dois aimer. Ce n'est pas ton pays, la Côte d'Ivoire, que tu dois aimer, c'est moi que tu dois aimer. Donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Donc, si Dieu dit qu'il le mit à l'épreuve, ça veut dire qu'il y avait une difficulté à laquelle Abraham allait être confronté pour céder face à la requête. Abraham prit son fils et s'en alla pour obéir à Dieu. Et la Bible nous dit à la fin de l'histoire, au verset 12, quand Abraham a apporté son fils, l'ange de l'Éternel apparaît. Et qu'est-ce que l'ange dit? L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu veux voir, oui? Crains de Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. En quelque sorte, je sais maintenant que tu m'aimes au point de sacrifier pour moi. C'est le mot grec, là. Le mot craindre se confond au mot aimer. De façon passionnelle. Parce que il a aimé Dieu au point où son fils qu'il aimait, il a cédé pour Dieu. Vous me comprenez? Donc, et c'est pour ça aussi qu'en retour, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais la première personne qui a donné, c'était qui? C'était Abraham. C'était Abraham. La première personne qui a donné, c'était qui? Très bien, c'était Abraham sur la terre. Mais Jésus étant déjà immolé depuis la fondement du monde, Dieu a donné le premier. Mais Abraham a été la première personne qui a permis au sacrifice de Dieu de quitter le ciel pour la terre. Donc il y a des choses que Dieu a déjà faites pour toi, mais que seules tes actions vont permettre et autoriser qu'il se manifeste sur la terre. Car Jésus était déjà immolé avant qu'Abraham obéisse. Vous êtes encore là? Donc vous comprenez que souvent quand Dieu nous parle, en disant fais telle chose, en fait, il ne nous demande pas quelque chose. Il nous donne une clé pour avoir accès à quelque chose que nous avons. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Abraham a donné son fils. Il avait combien de fils? Abraham avait combien de fils? Abraham avait combien de fils? Et Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton? J'y avais combien de fils? Deux. Parce que Adam était là. Mais Adam n'était plus fils. Comme Ismaël était là, mais il n'avait pas été aussi considéré dans cette histoire. Adam existait aussi. Mais Adam n'était plus dans l'alliance. Il n'était plus fils. Ismaël était là, mais il n'était pas dans l'alliance. Il n'était pas le fils de la promesse. Il était dans la déchéance. Et Dieu a considéré qu'il avait un seul. Quand Jésus venait, Adam était déjà là. Mais Dieu dit, fils unique. Il a apporté un sacrifice sur la croix. Et la Bible l'appelle le second Adam. Mais Dieu dit, Dieu a donné son fils unique. Celui que tu aimes. Abraham a marché combien de jours avec son fils? 3 jours. Jésus a fait combien de jours dans la tombe? 3 jours. Vous pensez qu'il y a au hasard? Non. Je te garantis que quand tu as compris l'intrigue de l'amour, les choses qui t'arrivent ne sont pas le hasard. Tu peux provoquer la visitation du ciel par ton sacrifice. Qu'est-ce que tu as été à même de faire pour Dieu? Ça détermine ce que le ciel fera pour toi en retour. Certains d'entre nous, oh, alléluia, amen, alléluia, amen. Et puis c'est tout. Quand Dieu nous dit, il faut aller ici, non. Même venir juste écouter sa parole, c'est un problème. Et on attend, oh Dieu, visite-moi. Non, il faut toujours savoir que dans l'intrigue de votre relation d'amour, la visitation du ciel est conditionnée par tes actions personnelles. Qu'est-ce que ton amour t'a coûté jusqu'à aujourd'hui? Bien-aimé, vous savez, c'est facile de dire, oh, j'aime l'Éternel, alléluia. Mais en fait, au fond, peut-être que tu es en train de dire, j'aime les promesses que Dieu me donne. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Un jour, à l'âge de 27 ans, Dieu m'a rendu visite dans ma chambre et me dit, organise les funérailles des membres de ta famille. Je suis successeur de mon père. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne connaissez pas la tradition babylonienne. Successeur, l'héritier, détenteur de la tradition, aux yeux de la culture. Organise les funérailles de ta famille. Et je vais t'envoyer me servir. Donc ça veut dire qu'au même instant, présente-moi ta famille comme mort au devant de mon autel. Et sois prêt à partir où je t'envoie, sans regarder derrière. Vous savez, aujourd'hui, on a un évangile qui n'est pas l'évangile réel. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Le royaume des cieux, c'est aussi le sacrifice. Quand on aime, on s'investit pour la personne qu'on aime. Les affaires que j'aime et tout simplement parce qu'on reçoit, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Vous voyez? Ce n'est pas de l'amour. Ah non, pourquoi il est gentil, il est si... Non, non. Qu'est-ce qui prouve que je l'aime? C'est ce que je fais pour lui. Et non, ce qu'il fait pour moi. Si ton amour tient parce qu'il fait les choses pour toi, c'est que tu ne l'aimes pas vraiment. Mais il faut, mais qu'est-ce que tu fais en retour? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que l'évangile te coûte? Certains d'entre nous, ça n'a même pas coûté une relation. On a les mêmes amis, on fait qu'à les mêmes endroits, on fait les mêmes choses qu'avant, et puis rien du tout. Alléluia, amen, je suis sauvé. Non, bien-aimé. Quelle est l'influence de l'évangile? La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Ça veut dire que quand on vient à l'évangile, on meurt à soi-même. Et on commence à vivre pour Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous allez vous rendre compte de l'intrigue. L'amour est terrible. L'apôtre Paul est celui qui écrit et qui dit, je sais le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Vous vous rappelez ce texte? Très bien. Je sais le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Aussi longtemps qu'il était dans la loi pour chercher à, il faut que je fasse ça parce que Dieu aime ça, il faut que je fasse ça parce que... Mais quand il est arrivé dans la dimension où il a commencé à connaître Dieu, qui lui imposait l'obéissance et non la loi que Dieu imposait, sa vie a changé. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons les ordres que Dieu donne, mais nous ne connaissons pas le Dieu qui donne l'ordre. L'ordre ne va jamais te donner la force d'obéir. Mais le donneur d'ordre te donne la force d'obéir à l'ordre. Donc plus tu connais Dieu, mieux tu l'obéis. Tu lui obéis. Donc la connaissance te donne d'aller dans une dimension de la marche, dans la profondeur avec lui. Et c'est pour ça qu'il va dire. Mais ces choses qui hier, dans Philippiens 3, verset 7 à 10, étaient pour moi comme dégain, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Vous voyez? Pas à cause de la loi, mais à cause de Christ. Aussi longtemps qu'il regardait à la loi, il était sans force. Mais quand il a regardé à Christ qui a accompli la loi, la révélation a changé. Et il dit, même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Pour lequel, vous voyez, pour lequel j'ai renoncé à tout, pas pour la loi. J'ai renoncé à tout pour Jésus, pas pour la loi. Il y a des gens qui renoncent à tout pour la loi, mais ne connaissent pas Christ qui les a affranchis de la loi. Et c'est pour ça que vous les voyez. Ils disent qu'ils sont bons again et de nouveau, ils marchent dans la rue. Le visage est là. Vous sentez qu'ils sont misérables. Ils vont vous dire, je ne pêche pas, je ne vole pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie parce qu'ils sont greffés à un arbre sec, sans vie. Et souvent même, quand tu as commis le péché, ils sont prêts à te couper la tête. Hé, hey, pourquoi tu as fait ça? Tu ne sais pas que tu dis, mais ah! Voilà, vous comprenez. C'est ça exactement. Et c'est comme ça que les gens d'en face ont bâti leur religion sur les principes de la loi et non de la grâce. Vous comprenez? Donc la force de la vie avec Dieu, c'est la force de l'amour dans notre cœur. Quand il n'est pas là, ça devient la religion. Donc à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, nous renonçons à tout. On renonce à tout. À quoi tu as renoncé? Parce que tu connais le Seigneur. À l'âge de 27 ans, je suis fier de le dire. J'ai dit à Dieu, montre-moi le pays où tu veux que j'aille gérer. Quand il a dit Côte d'Ivoire, je pensais que je m'étais trompé. Que ça, c'est le diable qui me parlait. Parce que je voulais aller dans un pays en brousse. Parce que dans ma tête, on m'avait enseigné que se sacrifier pour Dieu, c'est vivre misérable sur la terre, dans des pays reculés, avec des pygmées. J'étais prêt à partir. Vous voyez, et souvent, on a la mentalité de sauterelle. On pense que Dieu est un Dieu qui est simplement là pour les gens miséreux. Et dès qu'on voit des gens un peu bien, oh oui, eux, laisse-les, mon frère, eux là, tu sais pas, ils ont fait des pactes avec le diable. Non, non et non. Vous voyez, et Dieu a dit Côte d'Ivoire. 27 ans, sans soutien missionnaire, sans avoir quelqu'un à l'étranger qui dise, on t'envoie, je suis parti. Bien, mais je vais vous dire une chose. Quand vous connaissez Dieu, quand vous l'avez vraiment rencontré, quand il change vos soirées et que vous pouvez être chez vous seul, danser comme s'il y avait un orchestre, alors que personne n'est là, peut-être seulement ses anges, alors vous entrez dans un autre palier de la connaissance de Dieu. Quand seul vous restez devant la Bible et vous la lisez seul, vous étudiez la parole, vous êtes content. Il y a des sources d'eau vive qui jaillissent de votre cerveau. Vous savez que le ciel est ouvert. Vous êtes heureux, juste avec lui. Alors là, vous commencez à le connaître. Un jour, j'étais à table en Sierra Leone et on était en train, il y avait un bon plat cassava leaf. Hein. Ça dit, c'est des chèvres, des feuilles de manioc. J'aime bien ce mélange avec beaucoup de viande dedans et tout. Donc à cette époque-là, j'étais au bord de la table et je m'attendais à piquer un morceau. Hein, et puis le Seigneur me dit, lève-toi de là, je veux te parler. Je vous garantis que ce jour-là, Je sais comme ça, j'ai dit, qu'est-ce que Dieu veut? Et puis je suis là, j'ai dit, bon, et je réponds au Seigneur, vous savez, Dieu n'est pas, Dieu c'est notre ami. À une certaine dimension, c'est notre ami. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis d'accord, mais laisse-moi manger. Il dit clairement, il y a des choses pour lesquelles tu n'auras jamais accès si tu n'es pas prêt à abandonner d'autres pour moi. J'ai déposé la cuillère et la fourchette. J'ai dit au revoir à tous les autres. Je suis rentré dans la chambre. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a annoncé le message sur la victoire par la foi qui a changé ma vie radicalement. Pourquoi? Parce que ce jour, pour un plat à table, Dieu m'a donné d'avoir accès à une autre dimension de connaissance de Dieu. Vous me comprenez? Donc, l'évangile que, pour lequel nous avons été appelés, le Dieu qui nous a appelés, attend de nous aussi des sacrifices. Qu'est-ce que tu laisses pour lui? Qu'es-tu prêt à faire? Jusqu'où peux-tu aller? Et vous savez, Dieu a tellement agi dans mon cœur. Je ne sais pas comment vous dire, il a tellement agi dans mon cœur que quand je regarde même les gens aujourd'hui, je dis, Seigneur, tu es grand. Parce que quand je vois comment est-ce que je réagis vis-à-vis de certaines choses, je suis simplement touché. Mais un jour, je lisais la Bible et j'ai compris. C'est la même chose qui est arrivée à l'apôtre Paul. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on aime la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus, tombe! Et le gars, alléluia! Oui! La puissante power! Oui! Ça, c'est une dimension. D'accord? Alors, tu donnes, tu parles, comme on a vu le témoin tout à l'heure, tu dis, tu annonces le nom de quelqu'un, tu dis, au nom de Jésus, sois guéri, il y a des kilomètres, la personne était décédée, elle revient à la vie. Ce témoignage est puissant. Mais ça, c'est connaître la puissance de sa résurrection. Ce n'est pas la puissance de la résurrection que quand je prie pour les gens, des choses pareilles se produisent. Mais au-delà de la puissance de la résurrection, il y a la communion de ses souffrances. Là, les gens n'aiment pas ça. Non, 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 non. C'est là où tu vas entendre quelqu'un dire, ah non, tu me connais. Comme j'ai vu un pasteur un jour, il dit, non, non, non. J'ai dit, pasteur, pasteur, n'oublie pas que tu es pasteur. Il dit, non, 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 non. On met Jésus ici de côté. Non, non. Tu as cogné ma voiture. Au bord de la route. Hein, vous voyez? Là, tu le vois là. Et j'ai dit, je viens parler, j'ai dit, pasteur. Il dit, non, 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 non. Non. Ce n'est pas une question de Jésus. Jésus, c'est à l'église. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré, j'ai dit, bye bye. Parce que je ne veux pas être spectateur de choses pareilles. Vous savez, Christ, il y a la communion de ses souffrances. On doit souffrir pour Christ. Quand quelqu'un te dit, fais la joue gauche, Jésus a dit, présente aussi la joue droite. Quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2. C'est ça l'évangile. Il a dit, si on a fait ça au bois vert, quand c'est rentré du bois sec. Quelqu'un écrit sur Internet. Révérend Wafo, c'est un sorcier, c'est un vampire, c'est un si. Bien-aimé, j'ai prié pour ce truc m'a fait mal. C'est comme le poignard dans le cœur. Vous savez, quand on vous attaque, mais vous savez, ces choses sont utiles parce que ça vous fait mourir à vous-même. Dieu m'a donné le nom de la personne. Il m'a dit, c'est elle. Je ne l'ai jamais cherché, je ne l'ai jamais appelé. J'ai appelé Kokora, je lui ai dit, c'est telle personne. Lui seul savait. La semaine passée, dans mon bureau, la personne s'amène. Elle entre, je regarde la personne. Je check mon cœur, zen, calme. Je me rends compte que je n'ai rien de contre lui. Il commence à me dire, ça fait 6 ans et demi, 7 ans, le ciel est fermé sur ma tête. Je le regarde. Il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Le ciel est fermé sur ma tête. J'ai dit, oui, Dieu m'a dit l'année passée que tu venais me voir. Ça fait depuis décembre, Dieu t'a demandé de venir. Il dit, oui, effectivement. J'ai dit, bon, tu as fait du tort, mais ce n'est pas à moi, c'est à Jésus. Parce que si je vis, c'est plus moi qui vis. J'ai dit, bon, comme tu as écrit, il faut repartir écrire pour dire que tu t'étais trompé. Vous comprenez, ce n'est pas une affaire de... Non. Repars maintenant, écris. Et il est reparti, il a réécrit. Je m'étais trompé, je me suis attaqué au nom de Dieu. C'était un complot qu'on a monté. Il a écrit. J'ai dit, bon, quand tu as terminé, tu reviens maintenant, je prie pour toi. Mais 7 ans plus tard, j'aurais bien aimé que ce soit 7 jours. 7 ans. C'est-à-dire, tu vas sur Google, tu tapes revolver, pof, ça sort comme une bombe. Et comme les gens aiment ce qui est mauvais, donc, c'était, ah, tu as entendu? On dit qu'il est sorcier. Mais, vous voyez, mais Jésus m'a dit la communion de mes souffrances. Parce que si moi-même, les gens de mon vivant ont dit que j'utilisais la puissance des ténèbres, vous ne pouvez pas venir vous me servir et vous voulez qu'on ne dise pas du mal de vous. Ayez aussi la communion de mes souffrances. Souffrez dans votre chair ce que j'ai souffert quand j'étais vivant. C'est ça la communion des souffrances. Vous voyez? Donc, en aucun moment, on a sorti notre truc, on dit oui, les gars m'ont appelé, oui, Révolution Wafo, on a mis un collectif en place, on veut que tu te constitues partie civile, j'ai dit moi-même, partie civile. Non, j'ai une alliance avec Dieu, celui qui m'a appelé, celui qui me justifie. Je ne vais pas au tribunal pour porter plainte parce que quelqu'un m'a attaqué. Jésus, s'il avait fait ça, j'aurais fait la même chose. Mais comme il n'a pas fait, je ne fais pas. C'est mon alliance. Vous me comprenez? Parce que l'énergie que tu prends à aller au tribunal, à courir à gauche, chercher des avocats, à faire ça, bien aimé, je garde cette énergie, je me connecte avec le ciel. Et j'ai la révélation de la parole. Je continue de prospérer dans ce que je fais. La main de Dieu est sur ma vie et la gloire de Dieu se manifeste. J'ai appris une chose. Chaque fois qu'il y a de l'énergie dans une nation, il faut prier pour qu'il y ait aussi la nuit. Parce que si vous êtes en train de montrer une centrale d'électricité, et que finalement, il n'y a plus jamais de nuit, et qu'on dit que bon, en Côte d'Ivoire, la nuit ne tombe plus jamais, votre entreprise va s'arrêter. On n'aura plus besoin d'électricité pour éclairer la route. À qui vous allez vendre votre énergie? Vous demandez maintenant que la puissance de Dieu se manifeste. Laissez aussi que le diable arrive. Laissez que les problèmes se manifestent. Et là, vous allez voir qui est votre Dieu. Je déclare sur ta vie, par la puissance de l'Éternel, qu'une saison nouvelle s'annonce pour toi. Dieu te donnera de marcher dans les hauteurs et de vivre la plénitude de l'intrigue de son amour. Que Dieu te garde et te bénisse abondamment au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen trois fois. Amen. Amen. Amen.